Et la une dans le monde, on va revenir sur la rencontre entre les présidents chinois et russes, respectivement Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui ont affirmé hier la force des relations entre leurs deux puissances, et ce, malgré les turbulences internationales. On en parle avec notre spécialiste de la Chine, entre autres, Daniel Habert, géopolitologue et chroniqueur sur Radio Judaïka, qu'on retrouve normalement tous les lundis dans les conversations avec Daniel Habert. Lundi prochain, n'y échappera d'ailleurs pas, mais voici ce qu'il pense de cette réunion entre Xi Jinping et Vladimir Poutine.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors pour une fois, ce n'est pas dans le cadre de nos conversations, mais on va parler aujourd'hui de la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Alors les deux hommes se sont rencontrés à Pékin, et dans une déclaration, le président chinois a estimé qu'une reprise des hostilités au Moyen-Orient serait inopportune. Cette rencontre, elle tombe quelques jours après le départ de Donald Trump de la capitale chinoise. Pourquoi ce meeting avec l'ennemi juré de Donald Trump quelques jours après?
Alors, je ne sais pas qui est l'ennemi juré de Donald Trump, parce que Trump et Poutine ont des relations assez ambiguës. En réalité, les relations entre la Chine et la Russie, c'est une vieille histoire, très compliquée en fait. Depuis la naissance de la Chine de Mao, la relation a été difficile. On en est quasiment arrivé à un affrontement. Il y a eu même une guerre en 1969. Donc les deux pays communistes ont été en fait des rivaux. Et il a fallu attendre finalement l'arrivée de Poutine et la disparition évidemment avant de l'Union soviétique et l'arrivée de Xi Jinping pour que les deux décident de ce qu'on appelait une amitié sans limite, quelques jours avant l'attaque de la Russie sur l'Ukraine en février 2022. Donc aujourd'hui, c'est apparemment une grande lune de miel, mais en réalité, chacun voit bien la disproportion qu'il y a entre la Russie et la Chine. C'est de 1 à 10 en gros. Hein. La Chine, c'est 10 fois plus peuplée. Le PIB de la Chine, c'est près de 10 fois celui de la Russie. Donc c'est un partenariat où l'un des deux partenaires est écrasant et l'autre est tout petit. Et donc c'est assez compliqué à gérer pour les deux. Alors pour Poutine, il faut toujours rappeler que c'est un homme isolé. Il est isolé dans son bureau, il est isolé au Kremlin, il est dans l'angoisse d'être empoisonné, il vit reclus. Et en plus, il est sous le coup d'un mandat de la Cour de justice internationale qui fait qu'il peut pas voyager partout. Donc aller en Chine, c'est une grande respiration, et on voit qu'il est très heureux. Il respire, il est tranquille, c'est un grand bonheur pour lui. Pour Xi Jinping, lui, il faut qu'il gère une relation qui est secondaire pour lui en réalité. La vraie relation pour Xi Jinping, c'est la relation avec les États-Unis. Je dis pas avec Trump. Trump, pour Xi Jinping, est un mauvais passage qu'il faut attendre. Il faut attendre le départ de Trump, parce que Trump est quelqu'un que un homme comme Xi Jinping ne sait pas gérer. D'ailleurs, personne ne sait l'analyser et le gérer, donc lui, pas plus que les autres. Donc, il attend son départ, et donc il temporise, il donne du lest à la relation, on se donne des tapes sur l'épaule, mais au fond, vous voyez, votre question sur la déclaration du communiqué, la reprise des combats au Moyen-Orient serait inopportune, veut dire que la Chine n'a aucun poids dans la décision. Il attend la décision de Trump, et si jamais Trump décidait de bombarder, il dirait bah c'est pas bien, mais c'est tout, c'est tout. Donc par rapport à Poutine, il faut absolument qu'il gère une relation disproportionnée, déséquilibrée, et en lui donnant de la face, comme on dit en Chine, c'est très important. Et donc de ce point de vue-là, c'est réussi.
Alors justement, vous avez donné les déclarations du président chinois Xi Jinping, et vous les avez en partie expliquées. Quels sont les intérêts chinois et russes? On sait qu'une partie de leur discussion a tourné autour de la guerre en Iran. Quels sont les intérêts des deux pays dans la région?
Alors, si on parle des intérêts, l'intérêt de Poutine qui est en guerre, c'est de financer sa guerre. Et donc, il ne peut plus vendre son gaz. C'est le gaz le plus important que le pétrole. Il ne peut plus vendre son gaz par le pipeline qui s'appelait Nord Stream, qui connectait la Russie avec l'Allemagne. Et donc, ça donnait un débouché très volumineux, très rentable et surtout très sécurisé. Pour les deux d'ailleurs, hein. Et puis tout ça, ça s'est cassé la figure. Donc, au fond, Poutine est désespéré de trouver l'équivalent. Et l'équivalent, il est de l'autre côté. Et il est de construire. Alors, il y a déjà un pipeline entre la Russie, le gaz russe et la Chine, qui s'appelle Force de Sibérie 1. Et maintenant, il faut, dans l'esprit de Poutine, le doubler. Donc, alors, on parle de 50 à 100 milliards de dollars d'investissement, qui paye. Et est-ce que c'est l'intérêt de la Chine de se mettre dans les mains structurellement du gaz russe, comme les Allemands s'étaient mis dans les mains du gaz russe et le payent très cher aujourd'hui. Et donc l'intérêt de Xi Jinping est probablement de retarder la décision, mais il peut pas le faire parce que il faut bien donner quelque chose à Poutine. Et or, ce dont Xi Jinping a besoin vis-à-vis de Russie, c'est de le neutraliser. C'est neutraliser la Russie. La Russie ne pourra pas être le partenaire à égalité des États-Unis. Retrouvera jamais la place que l'Union soviétique avait face aux États-Unis. C'était un face à face des deux hyperpuissances. Aujourd'hui, les deux hyperpuissances, c'est les États-Unis et la Chine. Et donc, la Russie n'est qu'une puissance militaire avec une grande capacité de nuisance, qui en plus ne réussit pas à gagner sa guerre contre un pays moyen comme l'Ukraine. Donc le vrai patron c'est Xi Jinping, mais il faut donner de la face à Poutine en faisant semblant qu'il soit important, lui promettant une amitié sans limite, en promettant de l'aider. Il l'a aidé déjà dans la guerre contre l'Ukraine en en permettant aux Coréens du Nord d'envoyer quelques troupes. Vous vous en souvenez, il y a peut-être des livraisons de part et d'autre. Donc, cette relation déséquilibrée, on l'a vue et chacun fait semblant de croire que c'est une relation équilibrée. Et sur le Moyen-Orient, alors si c'est ça la question, parce que c'est ça qui nous intéresse nous ici à Radio Judaïka, on voit bien que l'Union soviétique avait perdu toute influence au Moyen-Orient pratiquement à partir de 1979, quand l'Égypte a fait la paix avec Israël. Finalement, l'Union soviétique a perdu tout appui au Moyen-Orient, sauf la Syrie d'Assad, mais ils viennent de la perdre à nouveau. Donc, l'influence russe dans la région du Moyen-Orient est très faible, et l'influence chinoise, elle n'est pas encore très forte. Elle est très forte, on l'a dit plusieurs fois ici sur cette antenne, grâce à vos bonnes questions. Elle est très forte sur le plan économique, mais elle n'est pas encore très forte sur le plan géopolitique. Et au fond, la rencontre entre Xi Jinping et Trump n'a pas permis à la Chine de se décider à prendre un poids supplémentaire dans la région. Il pourrait le faire en disant, ben, je vais vous aider à régler le problème, par exemple, du détroit d'Ormuz. Il l'a pas fait. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Si vous me posez la question de l'influence des deux pays sur le Moyen-Orient, elle est encore très faible.
Pour conclure et rapidement, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé dans cet entretien, on peut comprendre après cette rencontre que les deux pays ont réitéré leur forte alliance.
Écoutez, c'est pas une alliance. La Chine n'a pas d'alliance. C'est une amitié. D'ailleurs, le mot amitié veut rien dire en réalité en géopolitique. Tous les géopolitiques vous diront, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. En parlant d'amitié avec la Russie, Xi Jinping, justement, évacue l'idée d'une alliance. Ce n'est pas non plus un partenariat dans tous les domaines et pour toujours. Un partenariat de circonstances. Tous les observateurs pensent que ça ne durera pas éternellement. Et donc, pour l'instant, si je devais conclure, je dirais que dans l'esprit de Xi Jinping, ce qui est important, c'est de neutraliser Poutine en lui donnant de la face, en lui faisant des promesses que seul Poutine peut croire. On n'est même pas sûr que Force de Sibérie 2 sera construit et dans quel délai et qui le payera. Et donc c'est plutôt pour bah, apaiser l'ego de Poutine et permettre à Xi Jinping d'avoir une liberté de manœuvre totale, ce qu'il a acquise et dont on ne sait pas encore ce qu'elle va être. Concernant le Moyen-Orient, et je pense que dans nos prochaines conversations, Blaise, on devra beaucoup en parler.
Prochaine conversation qui auront lieu à ce lundi matin. Merci beaucoup Daniel Haber et on se retrouve lundi matin.
D'accord, à lundi, au revoir.